Nous avons vu ensemble ce qu'il représentait véritablement au premier siècle. Nous avons ensuite passé en revue les différents buts que Dieu poursuivait en accordant cette puissance à Jésus, aux apôtres et à certaines autres personnes, pour enfin traiter du baptême du Saint-Esprit. Tout cela nous amène tout naturellement à nous demander si le chrétien du XXe siècle doit encore s'attendre à voir ces choses fantastiques, s'il doit lui aussi aspirer à être baptisé du Saint-Esprit, et si les apôtres ont, comme certains le prétendent, transmis leur pouvoir surnaturel à la postérité. Il faut avant tout remarquer que, tout d'abord, seuls les apôtres étaient dans l'Église de Jérusalem capables de faire des miracles. Le livre des Actes montre clairement ce fait. Dans le chapitre 2, il est dit qu'après la première prédication de l'Évangile, le jour de la Pentecôte, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le même livre des Actes nous montre dans le chapitre 5 que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Cependant, un peu plus tard, les disciples de Jésus se mettent à transmettre leur pouvoir à d'autres, car la nécessité s'en fait sentir. C'est le cas, par exemple, des 7 diacres dont les noms sont stipulés en Actes chapitre 6 et verset 5 et qui furent présentés par l'Assemblée aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous voyons donc d'une manière très claire que ces dons se sont bien transmis, et d'autre part, que c'est par l'imposition des mains des apôtres que cela se fait. La Bible stipule d'ailleurs dans au moins 2 cas que cette transmission est pleinement effective. Voyons tout d'abord le cas du premier d'entre ces 7 diacres, dont il est dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Ensuite vient l'exemple d'un autre diacre dont parle toujours le livre des Actes. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Mais permettez-moi de revenir encore une fois pendant quelques courts instants sur un des buts principaux de ces dons spirituels. Et lisons encore 2 versets du 8e chapitre des Actes. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles qui s'opéraient. Ce but est ici, une fois de plus, démontré, c'est-à-dire qu'il est fait pour confirmer la parole, prouver qu'il parle bien au nom de Dieu. Mais revenons à ces diacres qui viennent de convertir beaucoup de gens en Samarie. Pour pouvoir accomplir ce ministère fructueux, ils ont reçu par imposition des mains le don d'accomplir des miracles. Vont-ils à leur tour les transmettre à d'autres, maintenant qu'ils doivent poursuivre ailleurs leur travail de prédication? Absolument pas. La preuve en est que le Nouveau Testament dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, c'est-à-dire 2 apôtres. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Comment se fait-il que ceux qui leur avaient prêché l'Évangile et les avaient convertis ne leur aient pas imposé les mains pour leur transmettre à leur tour ces dons spirituels attribués grâce aux apôtres? Tout simplement parce qu'ils en sont totalement incapables. C'est la raison pour laquelle Pierre et Jean sont obligés de se déplacer depuis Jérusalem pour venir leur imposer les mains. Timothée a reçu au moins un don spirituel par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Le voit-on partager ce don avec d'autres chrétiens? Non, car il ne le peut pas. Les 12 convertis d'Éphèse, à qui Paul a également imposé les mains, qui parlent en langue et prophétisent, transmettent-ils leurs dons? Apparemment non, car le livre des Actes n'en souffle mot. Pourquoi? Parce qu'ils en sont également incapables. Et le Samaritain dont nous avons parlé il y a quelques instants, et ceux à qui s'adresse Paul en Romains chapitre 1 et verset 11, silence total de la part des Écritures. ces dons spirituels sont d'ailleurs tout temporaires et vont disparaître dès que la rédaction du Nouveau Testament sera achevée. L'apôtre Paul le dit sans embâge. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'apôtre ne dit pas quand celui qui est parfait sera venu, non. Il dit bien quand ce qui est parfait sera venu. Il s'agit donc bien du Nouveau Testament tout entier. Jacques le dit également. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Paul exhorte les chrétiens du premier siècle et leur dit également, « Aspirez aux dons les meilleurs !» Mais il ajoute, « Je vais encore vous montrer une voie par excellence, et c'est l'amour qui ne périt jamais. » Il compare cette époque de dons spirituels de l'Église à sa propre enfance. Puis, le temps où la loi est complètement donnée à l'état adulte. Et continue en ces termes, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Cela vient à dire que la possession de la complète volonté de Dieu est de loin préférable à tout le reste. Il ajoute d'ailleurs encore, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. » Il ne s'agit nullement d'une allusion au ciel, mais bien d'une époque qui se situe sur terre. Les dons spirituels doivent être en quelque sorte comparés à l'échafaudage qui monte à fur et à mesure qu'un bâtiment s'érige et qui est ensuite retiré, dès que l'ouvrage est bien solide. Il faut également penser aux remorqueurs qui tirent le navire hors du port et le laissent dès que la haute mer lui permet de naviguer par ses propres moyens. L'Église primitive a été établie en partie grâce à ses dons spirituels, qui temporairement lui ont servi d'échafaudage ou de remorqueur. Mais dès que les hommes inspirés de Dieu ont fini d'écrire le Nouveau Testament, c'est lui à qui il appartient de guider les hommes vers la grâce de Dieu et le salut. L'Église que Christ a fondée n'a plus besoin de miracles pour s'ériger ou pour prendre son essor. Non, car il s'agissait là de choses temporaires. Les dons spirituels étaient accordés grâce à une puissance miraculeuse. Pourquoi ne sont-ils donc plus accordés de nos jours? Premièrement, parce qu'il n'existe plus d'apôtres pour les transmettre. Et nous avons vu dans l'Église primitive qu'eux seuls pouvaient le faire. Ils étaient inspirés de Dieu. Et grâce à cette inspiration, connaissaient la vérité tout entière. Ils avaient vu et entendu Jésus. Deuxièmement, parce que ces hommes inspirés ont révélé toute la vérité nécessaire à l'homme pour le rendre parfait aux yeux de Dieu, et que par conséquent, il n'est nul besoin d'autres révélations miraculeuses. Ce qu'ils ont écrit dans le Nouveau Testament fournit à l'être humain absolument tout ce que Dieu lui destine comme instruction, afin de le justifier à ses yeux. L'homme peut maintenant apprendre toute la vérité dont il a besoin pour son confort présent et éternel, en prenant connaissance de sa volonté exprimée par la Bible. Dieu ne fait plus de miracles pour se révéler à lui, car ce n'est plus nécessaire. Nous savons donc maintenant que la révélation de Dieu à notre égard est complète, et que nous n'avons nul besoin de miracles pour nous pousser à croire. Jésus avait promis à ses apôtres, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cette prescription a été remplie. Les apôtres nous ont enseigné tout ce que l'Esprit leur a inspiré. N'y revenons donc plus. La parole de Dieu nous dit maintenant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi nous est donnée parce que nous entendons dans la parole et non pas à cause des miracles qui feraient appel à notre vue. L'apôtre Paul dit maintenant à tous les chrétiens, en parlant de Dieu, il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'évangile qui nous appelle et qui nous donne la gloire de Christ, rien d'autre. On est en droit de se demander, Mais en quoi consistaient exactement ces fameux dons spirituels? Il s'agissait en gros de pouvoir chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de les interpréter, de saisir des serpents et de boire des breuvages mortels sans en être incommodé, de guérir des malades par la position des mains, de prophétiser, de faire des miracles, et enfin de pouvoir discerner les esprits. De nos jours, on prétend que certains de ces dons existent toujours. Mais où le bât blesse, c'est que toutes ces manifestations de l'Esprit Saint ne se rencontrent plus. Or, tous les dons comprenaient la révélation et la confirmation de la vérité. Ils devraient toujours servir les mêmes buts et produire les mêmes résultats qu'au premier siècle. Si les dons spirituels existent encore, alors il faut les avoir tous, et non pas seulement quelques-uns d'entre eux. On a souvent tendance à confondre baptême du Saint-Esprit et don du Saint-Esprit. Nous avons vu que ce baptême particulier avait été promis aux apôtres et qu'il n'existe plus. Je n'en veux pour preuve supplémentaire que le passage de la Bible où Paul dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Le don du Saint-Esprit est quant à lui destiné à tous ceux qui sont devenus chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont cru, qui se sont repentis, qui ont confessé leur foi et qui ont été baptisés d'eau. En Actes chapitre 2, verset 38, Pierre dit à une foule immense à Jérusalem, « Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit habite dans le cœur de ceux qui, par leur obéissance, sont devenus chrétiens. L'auteur des Actes parle d'ailleurs de l'Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et Paul affirme aux chrétiens de Corinthe, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le but de ce don, qui, je le répète, n'a rien de commun avec le baptême du Saint-Esprit, est de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous sceller comme gage de notre héritage, nous aider dans notre faiblesse et intercéder pour nous aider à porter des fruits grâce à sa puissance. Il n'y a dans tout cela rien d'extraordinaire ni de fantasmagorique. C'est l'Esprit de Dieu qui habite dans chaque chrétien, mais ne lui permet pas de faire des miracles et des prodiges. Pourquoi faire? L'amour de Dieu ne surpasse-t-il pas toutes choses?